Retour vers le passé, une émission proposée par tous les élèves de 5e du collège de Gémozac. Suivez les aventures historiques de nos héros sur les routes de Pau.
Chapitre 3, je le jure.
10 mai 1179, Richard Cœur de Lion n'a écouté que sa colère. Le château de Pont est détruit malgré la malédiction divine prononcée à son encontre. Vous régnerez peu et sans gloire, et vous vous ferez voler votre couronne et votre royaume. Toutefois, il regrette son geste du fait de la position stratégique de la ville. Il déclare aider à la reconstruction et ordonne à Geoffroy d'épouser Agnès de Matha. De leur côté, les enfants trouvent deux papiers. L'un d'eux déclenche leur téléphone qui les transporte au 2 août 1180.
Johann, Isabelle et Guillaume sont exactement au même endroit. Ils n'ont pas bougé et pourtant ils ont avancé dans le temps d'un an. Un voyage immobile. L'écurie épargnée par la colère de Richard n'a pas changé. Enguerrand est encore là, dans une belle tunique neuve. Égal à lui-même, toujours aussi heureux de les voir, il accourt à leur rencontre.
Mes amis, quelle joie de vous revoir!
Il tourne sur lui-même.
Avez-vous vu ma nouvelle tenue? Fini le nettoyage de l'écurie. Je suis à présent page. Dorénavant, je suis au service de mon parrain, Sir Geoffroy. Comme je suis son valet préféré, c'est moi qui suis chargé de l'aider à endosser son armure lors des tournois et des joutes. C'est une grande responsabilité, vous savez? Elle est aussi lourde que moi, mais je suis trop fier de la faveur qu'il m'est accordée. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais le vêtir pour son mariage. Bientôt, j'aurai encore plus de devoirs puisque je serai au service de sa dame pour les loisirs, car je sais lire le latin et le roman. Et il paraît que je joue le rébec mieux que personne. Et si je continue de bien tenir ma lance lors des entraînements, je serai écuyer dès mes 10 ans avec un vrai cheval.
La joie et l'enthousiasme d'Enguerrand, sa fougue naïve, charment nos trois collégiens qui s'enhardissent.
Enguerrand, c'est vrai que tu as quitté ta mère à l'âge de 7 ans? Tu n'en es pas triste? Elle ne te manque pas?
Oui, mon rang m'impose de quitter l'univers des femmes très jeunes. Parfois, sa douceur et ses histoires me manquent. Mais je deviens un homme et je veux devenir le meilleur. C'est pour moi le moyen de la remercier de l'éducation qu'elle m'a donnée, de la respecter aussi. Car si je faillis, c'est qu'elle aura échoué de faire de moi un bon adulte. Je veux qu'elle soit fière de moi, que mes enfants le soient, et je veux aussi arriver devant Dieu en pouvant le regarder en face.
Devant le silence sidéré de ses trois compagnons, il poursuit.
Mon sort n'est rien comparé à celui des serfs. J'en ai bien conscience, notre société est très codée. Nous avons chacun notre rôle à mener en bien ici-bas. Moi, je m'entraîne pour l'instant à chasser, ou sur un cheval de bois, à bascule de manier la lance. C'est mieux que d'aider au champ. Je participe aux tâches ménagères en aidant à table, notamment. J'apprends la stratégie, et jamais je n'oublie mon devoir de chrétien. Je viens de vous dire que je veux être quelqu'un de bien, mais être le meilleur, cela veut dire aussi que c'est le cas. Je serai sur les champs de bataille dans 3 ans, aux côtés d'un chevalier, comme garde du corps. Je manierai alors de vraies armes. J'apprendrai à nager et à attaquer, autant qu'à défendre. Je deviendrai l'homme que je veux être, remplissant convenablement les devoirs de mon rang. Mais j'aimerais être adulte avant d'être un homme, non l'inverse.
Bouleversés par tant de maturité, les trois amis ne disent rien. Ils n'osent pas parler, encore moins de leur propre vie. La première, Isabelle, réagit en riant pour éviter également qu'Enguerrand ne les questionne à son tour, car il serait bien embarrassé pour répondre. Ils se regardent et marchent à sa suite. Ils sortent de l'écurie pour découvrir une assez grande cour carrée, ceinturée d'un rempart tout neuf, rempli de pierres cassées et de toutes sortes de débris, d'une tour ronde à chaque angle, dont une encore en construction. Elle a à son sommet une cage d'écureuils qui lève les blocs de pierre les plus lourds. Les morteliers et les tailleurs de pierre s'affairent sur la courtine, tandis que les charpentiers fabriquent des cadres cintrés, modèles et soutiens des arcs en pierre. Les forgerons entretiennent les outils en martelant le fer rouge à coups réguliers. Sur le sol, les traçages des calculs des maçons. Une estrade toute simple au milieu de la cour attend une troupe de théâtre qui animera les festivités par un mystère, pièce qui explique un épisode biblique, car le beau temps et la saison permettent de festoyer dehors plutôt que dans la grande salle, Lola. Une petite jeune femme, souriante mais intimidée, passe sous la herse, un panier à la main. Ses yeux verts regardent autour d'elle.
Tiens, le château était reconstruit à l'identique, avec toutefois une barbacane à l'entrée. Cette petite tour fortifiée qui mène au pont-levis. Les appartements du connétable se situent toujours dans les tours qui encadrent ce dernier, ainsi que les salles d'armes et de garde des soldats.
Elle traverse la cour et se dirige vers le cellier. Elle reprend ses réflexions.
Là, en revanche, le cellier n'est plus dans la tour, mais situé au rez-de-chaussée du bâtiment flanqué contre le mur d'enceinte, près de la cuisine et de la brasserie du puits. C'est plus pratique. Je sais qu'au premier étage se trouve la grande salle décorée de carreaux de céramique qui forment une mosaïque. C'est là que le seigneur fait justice et reçoit à côté de ses appartements.
Le cellier est bien connu des paysans, car ils viennent régulièrement y porter leur sens. C'est une pièce toute simple, dont les murs sont enduits de chaux, avec des étagères. Les fenêtres sont grillagées pour éviter que les oiseaux ne viennent piller les graines. Tout en marchant, elle vérifie son chargement et parvient aux cuisines.
Que Dieu vous bénisse, Roland. Regardez ce que Marie a pêché ce matin. J'ai pensé que cela ferait un plat d'exception pour le mariage de notre Seigneur.
Une anguille, mais elle est énorme. Quelle bonne idée vous avez eue, Astrid. Elle est bien vigoureuse, en plus. Et quelle couleur! On croirait qu'un arc-en-ciel s'y reflète.
Oui, vous avez vu comment elle change d'apparence rapidement? Elle vaut bien un écu.
D'accord, je n'ai pas le temps de négocier. Et elle est vaut de toute façon. Elle fera sensation sur la table. Merci, Astrid.
Elle repart en chantonnant. Elle a fait une bonne affaire, et il règne un air de fête que le beau temps accentue. La journée commence sous de bons auspices pour tous. Elle souhaite sincèrement que le repas se déroule parfaitement et que son seigneur Geoffroy soit heureux avec Agnès. Elle a hâte de voir le couple arriver à l'église, d'autant plus que l'aumônier, en ce jour faste, va être particulièrement généreux dans ses dons au peuple. Cette union est l'événement de l'année pour la ville. Voilà déjà bientôt un an que tout s'y prépare au château, mais les travaux n'ont pas facilité la tâche au maréchal et à l'intendant, chargés respectivement de l'intendance externe et de la seigneurie, puisque Geoffroy était parti s'installer à Niol, l'un des nombreux fiefs de ses parents, qui, eux, se sont retirés dans le Périgord. Leur enfant turbulent, toujours sans descendance à 30 ans, puisque célibataire, leur procurait bien des soucis, et l'ordre de Richard n'était pas fait pour leur déplaire. Agnès est de bonne lignée, elle peut assurer la succession, puisqu'elle a déjà eu un enfant de son premier lit. Pont et Garmazy pouvaient donc enfin vieillir tranquillement, leurs terres resteraient en possession de la famille, et celle qui allait être fondée calmerait certainement le tempérament impulsif de Geoffroy. Tous s'affairent donc à Pont pour que la fête soit réussie, d'autant plus que Richard Cœur de Lion y assistera. Du coup, quelques jours avant la date qui marquera la fin de sa vie aventureuse, Geoffroy III revient, notamment pour faire le bilan des préparatifs.
Sire, je vous félicite pour votre mariage. Je suis sûre qu'il va se dérouler à merveille.
C'est ce qu'il entend de l'une de ses servantes, puis lui dit.
Je vous remercie, mais allez donc me chercher ma plume et une feuille de papier, Louison.
Bien sûr, messire, j'y cours.
Elle s'exécute et y va tout de suite. Elle traverse la grande salle et va dans la réserve prendre la feuille, puis va chercher une plume et de l'encre. Elle porte le tout à Geoffroy. Il commence à écrire un brouillon de la lettre qu'il enverra à tous les habitants de sa bonne ville de Pont. Puis il le donne à Louise pour que le maréchal puisse le copier et l'envoyer. Dans la cuisine, le tournebroche, le marmiton et le panetier sont déjà au travail. Ils préparent le grand buffet. Le bouteiller vérifie ses fûts d'hydromel et d'hypocras, vin composé de miel et d'épices, et le chef cuisinier goûte ces dernières tout juste arrivées pour voir si notamment on ne lui a pas vendu de la nigelle pour du poivre. Il sent le carvi et va vérifier sa réserve de sel, produit régional essentiel pour conserver viandes et poissons. Dans la chambre, à coudre, les servantes préparent le costume de leur seigneur en soie bleue d'Espagne. Geoffroy III va voir comment se déroule sa confection. Dès qu'il le voit, il lance à ses couturières.
Magnifique! Quand aurez-vous terminé la pose de la fourrure de loutre?
Messire, nous aurons terminé d'ici demain ou plus tard.
Eh bien, c'est parfait, j'ai hâte de le voir achevé.
Nous le ferons dès que possible.
Je vous l'ai dit, messire.
Vous aurez le plus beau de tous vos costumes.
Mais aujourd'hui, c'est enfin le grand jour et Geoffroy s'énerve. Il cherche Enguerrand qui doit l'aider à s'habiller. Heureusement, celui-ci arrive au moment même où le seigneur allait demander à un autre page de le remplacer. La cérémonie religieuse se déroule à merveille. Agnès, que tous voient pour la première fois, est digne et belle, et elle séduit immédiatement sa future cour et son époux. Les mariés ont échangé un « je le jure » de fidélité et de loyauté l'un envers l'autre. Puis elle va découvrir, avec ses dames de compagnie, ses nouveaux appartements, le temps de changer de robe pour le repas. Notre poissonnière est sous le charme également, elle est fière de participer à sa façon au bon déroulement de cette journée. Ce qu'elle ignore, c'est que le cuisinier s'est débattu avec le poisson. Point d'anguille au banquet du mariage. Lorsqu'il a voulu la faire cuire, la belle bête l'a regardée avec des yeux tendres et lui a dit
« Beau valet, épargne-moi je t'en prie et tu seras remercié. Ne me plonge pas dans l'eau bouillante, mais sauve-moi d'une mort misérable. Mets-moi au col un gros lot d'argent, laisse-moi dans un puits, et chaque fois qu'un danger menacera les seigneurs de pont, je sonnerai pour les en avertir. »
Éberlué, le cuisinier a d'abord cru qu'il rêvait. Pris de peur également, car il la pensait posséder, il a effectivement mis l'anguille avec un gros lot dans le puits de la cour. Puis quelques heures plus tard, il s'est ressaisi et a voulu l'attraper. Peine perdue, l'anguille ne s'est jamais laissée prendre et elle protège depuis ce jour le château et sa mesnie, car on a pu entendre certains soirs son grelot tinter. Dans le jardin adjacent au rempart, les tables sont dressées. Planches de bois sur des tréteaux, elles sont recouvertes de nappes blanches immaculées sur lesquelles les servantes ont posé des longières, bandes de tissu plus longues que larges, placées en bordure des tables pour que les invités s'essuient la bouche et les mains. Des fleurs jonchent le sol et des tentures accrochées entre les arbres amènent ombre et fraîcheur. Sur le côté, les dressoirs mettent en évidence la vaisselle d'or et d'argent. Les invités s'installent. Au plus près des mariés, leurs familles, dont Pont et Garmazie qui ont fait le voyage, Richard, les nobles, au plus loin les paysans. Chacun, selon son rang, a sa place attribuée et s'assoit sur un banc. Parmi eux, le seigneur de Romade, remarquable avec ses beaux yeux bleus, ses cheveux blonds courts et sa barbe bien taillée. Proche de Geoffroy III, il aime la chasse aux sangliers et y va régulièrement avec lui dans ses bois de la moissonnerie. Le repas, qui va durer toute la journée, se présente selon la tradition bien établie. La mise en bouche débute avec du lard fumé ou des pommes sur du pain grillé, puis viennent les soupes, bouillons qui arrosent une grande tranche épaisse de pain, suivis des potages, proches de nos ragoûts, avec de la viande et des légumes. Enfin, le poisson accompagné d'escargots, de grenouilles ou d'écrevisses, qui précède le rôt, c'est-à-dire la viande cuite, généralement du cygne ou du paon, avant que la desserte, tourte de viande, ne soit servie avec des poires au vin. Simon de Romade, qui n'aime pas ce fruit, décline poliment en disant préférer le bout or, vin épicé accompagné de fruits confits, dragées et confitures, servi dans la chambre quand tous les convives ont quitté la table. Aujourd'hui, il est donné dans une autre partie du jardin, où le troubadour Benoît de Gémozac chante une gesta à un public captivé.
Déjà vous, je me suis approché pour s'opposer le plus maniable. Puis j'ai lancé l'arme avec une force si incroyable que j'en ai transpercé la cible en paille. Puis j'ai pris mon épée, elle est en bois, pour pouvoir m'entraîner. Or, non loin de là, un incendie se déclare et fait rage. N'écoutant que mon courage, je sauve récolte et personne apeurée. Voilà comment, gens assemblés, on m'a très jeune adoubé.
Tous applaudissent et reconnaissent Simon. Ce jeune chevalier va cacher sa fierté en allant rejoindre le groupe de danseurs qui cherche un cavalier pour une carole menée à travers les tables, mais son costume bleu, sa couleur préférée, est facilement reconnaissable et comme Simon est un excellent danseur, il est l'une des personnes les plus remarquées et fait chavirer bien des cœurs. Puis retentit la trompette. Tous s'installent pour assister au tournoi qui se déroule dans un champ. Le premier chevalier a une armure en métal décorée de quelques diamants, un bouclier cerclé de pierres précieuses ramené de croisade. Il a pris ses armes préférées comme sa lance en bois robuste ainsi que son casque cerclé d'or. À son écu, tous reconnaissent Tristan de Préguillac. Le chevalier Béranger de Ténac, quant à lui, a un équipement on ne peut plus simple. Aume, plastron et protection noire et rouge décorés d'un serpent. Il gagne les premiers combats, puis il affronte Geoffroy. Les chevaux s'élancent, celui du seigneur de Pont va un peu plus vite que celui de Béranger. Il se touche avec les lances et Geoffroy transperce le bouclier de son adversaire, ce qui le fait tomber sur son bras. Sous le choc, celui-ci se casse. Le barbier Boniface de Saint-Vivien descend aussitôt des tribunes et arrive pour le soigner. Il commence par saigner le chevalier, lui ouvre le bras, fixe une barre de métal à ses deux os pour les relier, puis recoue son bras. Enfin, il va rassurer l'assemblée qui attend avec inquiétude le sort qui est réservé à ce pauvre Béranger. Heureusement, celui-ci est musclé et fort, en parfaite santé. Son rétablissement se fera vite, il portera son bras en écharpe plusieurs jours, le temps que les os soient soudés. Soulagé, les invités se rappellent le jour où il a été adoubé. Son parrain, Archambault de Rabenne, lui a donné un très bon destrier en plus de ses armes, ses éperons et son aume, en lui disant
« Il n'y a point de destrier plus rapide que lui sur cette terre. »
Pourtant, aujourd'hui il a été battu, mais cela n'enlève rien à ses mérites. L'assemblée continue de se divertir en assistant à d'autres joutes et tournois jusqu'à la tombée de la nuit. Enguerrand, qui était dans les tentes pour assister Geoffroy lors de son habillage d'armure, revient vers Johan, Isabelle et Guillaume, qu'il a laissés près de la barrière de bois qui délimite le champ de l'affrontement. Les trois collégiens sont restés sur place, abasourdis par la violence des chocs, malgré le peu d'enjeux engagés, les huées des paysans et des marchands en tout genre. Même les matchs de foot ont moins d'ambiance. Le page leur raconte alors que le 14 septembre, l'atmosphère est encore plus festive. C'est la grande foire annuelle. Les marchands viennent des villes voisines vendre leurs produits artisanaux, même s'ils doivent payer un droit d'entrée, versé bien sûr au seigneur, et chacun met ses plus beaux atours. Les paysans mettent une cotte de gros drap, leurs femmes un bliot froncé, et ils portent un bonnet noué sous le menton. Les bourgeois ont un surcot de drap plus fin et un chapeau, leurs épouses une jupe plissée, un haut très échancré et un hennin bien plus plat retenu au menton. Tous viennent pour être vus. Comme à l'autre grande occasion annuelle du lundi de Pâques, jour où se déroule la course au coq, qu'Enguerrand relate.
Elle commence à 15h et se termine vers 23. Au début de la course, le prévôt lance les coqs, puis les sergents attrapent les animaux, leur soufflent le cul pour les exciter et ils comptent les plumes. S'il en manque une à l'arrivée, les propriétaires paient une amende. Puis ils lâchent les coqs dans une pente et les gens commencent à crier de toute leur force pour encourager leur animal préféré. Pendant ce temps, les bêtes doivent courir le plus vite possible pour rejoindre les personnes au bout de la pente. Mais quelquefois, les coqs s'envolent au-dessus des maisons, et les sergents doivent les rattraper. J'aime être au premier rang pour regarder la course. Je vois les gallinacés courir à toute vitesse dans la descente, et chaque bête doit passer la ligne d'arrivée. Parfois, un plus petit spectateur que moi essaie de se faufiler entre mes jambes, mais j'essaie de le repousser, car c'est déjà difficile de voir la course car tout le monde se bouscule et crie, applaudit, frappe ses mains. Je vois les coqs courir et les sergents se casser la figure par terre pour rattraper les animaux qui essayent de s'échapper du terrain. C'est très drôle. Notre seigneur est placé tout devant, seul sur un fauteuil, et il peut se régaler tout au long de la course, grâce aux dettes des paysans qui lui sont offertes pour ce jour. Personne n'a le droit de s'approcher du seigneur pendant la course. Une fois les coqs arrivés, les sergents invitent tout le monde au château pour un grand buffet où l'on dégustera les concurrents à plumes. Pendant le buffet, on sent la bonne viande rôtie et les gens dansent et chantent et ils s'amusent jusqu'au bout de la nuit. D'autant plus qu'il y a des boissons à volonté et des pâtisseries à profusion. Comme des flans, tartes aux fruits et des petits biscuits. Le seigneur aura la première part de coq le soir au moment du banquet. Et chaque année, toute la ville s'inscrit car les gens n'ont pas besoin de travailler et ils se régalent le soir.
Puis le page leur propose de rester un peu plus avec lui. Les trois amis refusent, gênés, pensant que les vacances scolaires vont bientôt finir et qu'ils reprendront les cours.
Enguerrand passe beaucoup de temps avec les enfants à leur expliquer, leur apprendre son mode de vie. Sous son air affable, se dévoile pourtant peu à peu une personnalité ambitieuse. Est-il là pour les surveiller ? N'en sait-il pas plus qu'il ne veut bien le dire ?
Isabelle, Guillaume et Johan vous disent à demain même heure
pour la suite de Retour vers le passé sur Radio Pont.